Donc on va continuer l'entretien, peut-être sur des points un peu plus précis, puis on ouvrira les questions à la page. Monsieur Galbert, demain, il y a des ateliers ici, beaucoup de gens participeront, des ateliers pour voir sur des thèmes, comment miser sur les égalités. Il y en a un qui est un atelier en miser sur les égalités en produisant de la solidarité. Et les gens vont trop se demander comment renforcer les normes sociales en faveur des inégalités. Il me semble que c'est beaucoup la base, comment on change la façon de penser pour que la réduction des inégalités soit prise en compte dans les décisions des décideurs, dans les politiques. Comment on peut changer les mentalités?
Je vous donne une réponse très courte, parce que je viens de finir mon discours assez long. C'est par l'organisation politique. Je crois que c'est assez simple à dire, c'est pas si simple à dire.
Ça partirait long, voilà.
C'est la discussion, c'est les idées qu'on partage en commun avec ses amis, avec ses collègues. C'est ça qui nous permet de viser des objectifs sociaux et de poursuivre les changements qu'il faut faire. Mais je crois qu'il faut surtout d'abord se désabuser des idées des économistes qui vous découragent de penser qu'une société meilleure soit possible.
Ça prend des économistes.
C'est pas qu'on prend des économistes, mais les économistes ont une position assez spéciale dans cette discussion. Nous avons beaucoup d'autorité pour des raisons complètement obscures. Pour devenir indéfensible, c'est pour ça d'ailleurs que je suis devenu économiste, pour avoir cet aspect d'autorité. Dans une démocratie, il doit être possible pour tout le monde de raisonner et d'influencer selon les idées l'évolution du système social.
Et de faire entendre également. Il y a des ateliers sur les transformations sociales et les services publics. Vieux d'ici, du Québec, du Canada, on a souvent l'impression qu'on est peut-être mieux servi, meilleur filet social qu'aux États-Unis, mais en même temps, il faut se battre pour défendre ce qu'on a jusqu'ici. Vous en avez parlé, il y a un mouvement pour miner un peu tout ça. Comment on fait pour développer ça? Parce que c'est ça qu'il faut pour réduire les inégalités, alors qu'en ce moment, on est occupé à essayer de défendre simplement ce qu'on a.
Les deux choses sont à peu près la même. Il faut d'abord faire la défense et ensuite passer à l'offensive, à l'expansion des services publics et des assurances sociales. Et je crois que ce n'est pas si difficile que ça. On a fait pendant des années maintenant une défense du système de sécurité sociale contre les lobbies financiers qui ont décidé de déclarer « Oh, la crise, on ne peut pas se payer ça, il faut couper, il faut couper. » Et maintenant, il y a, puisque le système américain, malgré ce qu'on dit, marche assez bien sur ce point de vue, le système de sécurité sociale a réduit la pauvreté parmi les vieux aux États-Unis de 30% il y a 40 ans, jusqu'à 10% maintenant. Peut-être un peu plus après la crise, mais quand même, c'est un système qui marche, c'est un système public qui coûte très peu, au point de vue administratif, qui ne rend pas de profit aux entreprises d'assurance, ceux qui les embêtent pour lui, qui protège une grande partie de la population américaine. On peut passer maintenant à une campagne pour élargir le système de sécurité sociale, surtout pour protéger ceux qui ne sont pas parfaitement protégés, pour faire le cas, faire le point que ce système a joué un rôle formidablement important pour stabiliser l'économie américaine au moment de la crise. C'était que nous n'avions pas le système de financier complètement écroulé, mais le système de sécurité sociale, ça marchait encore. Ça nous a sauvés. En Grèce, le Troïka, la politique d'austérité qui a été imposée à ce pays, a coupé les pensions, a coupé la sécurité sociale, jusqu'au point où l'économie s'est prise avec la société même, tombe et panique. Ça, vous pouvez y aller, vous pouvez voir. C'est une chose extrêmement triste et complètement inévitable.
Voilà, vous avez pensé à ça, effectivement. Quand on parle justement de mesures sociales, vous avez vu beaucoup de modèles dans le monde. Est-ce qu'il y a des types de mesures qui sont plus efficaces que d'autres pour réduire les inégalités, les interventions qui sont plus efficaces? Focaliser sur l'éducation
aussi. Certainement, il y a des moyens les plus efficaces. Je crois que un peu partout, les choses les plus importantes sont les assurances pour la vieillesse, pour la santé, contre le chômage et pour la nourriture. C'est essentiel. Mais c'est pas suffisant pour avoir une classe moyenne. Pour avoir une classe moyenne, une mentalité de classe moyenne, il faut avoir la sécurité personnelle dans le domicile, le logement, et une certaine assurance financière personnelle ensuite. Je crois qu'avec ça, avec une certaine stabilité de l'emploi, on peut reconstruire une société de classe moyenne. Mais pour faire ça, il faut aussi contrôler ce qui veut détruire, c'est-à-dire ce qui s'appelle la prédation, les tendances prédatoires, surtout de ce qui domine le système financier.
D'ailleurs, on parle finalement de réduire les inégalités de revenus. On parle demain, il y a un atelier sur comment agir sur le marché du travail. Dans le contexte de mondialisation qu'on a actuellement, Comment on fait
pour... Oh, je ne pense pas qu'on est contraint par la mondialisation. Il y a certainement certains aspects de l'économie qui sont dominés par le commerce extérieur, c'est-à-dire que les vêtements et les électroniques et tout ce qu'on achète de la Chine, mais dans nos sociétés actuelles, ça n'a été depuis 30 ans qu'une petite partie des emplois. Nous avons aux États-Unis moins d'emplois dans le secteur des manufactures que nous avions il y a 50 ans, avec une population trois fois plus grande. Donc la totalité de l'augmentation de l'emploi, c'est dans le secteur des services, le secteur du commerce, le secteur de construction et tout cela.
Il y a des emplois très mal payés aussi. Il y a des emplois très mal payés aussi dans les services. Quand les gens travaillent à temps plein, ils sont obligés d'aller dans les banques alimentaires. Est-ce qu'il y a moyen de jouer sur...
Mais je crois que ce qu'il faut faire, c'est de construire des institutions qui sont en dehors du secteur commercial, du secteur qui cherche les profits. Le secteur public, le secteur non-profit, peuvent constituer la provision des emplois pour la plupart des gens. Quand le secteur privé ne veut pas ou ne peut pas offrir ces emplois-là, c'est pas impossible d'imaginer une société pareille. Mais il faut créer des institutions d'abord, parce que on ne pourrait pas faire ça, le secteur privé, les entreprises privées ne feront pas ça sur l'échelle dont on a besoin. Mais c'est pas impossible de faire. C'est certainement pas les Chinois qui nous empêchent.
Se doter de nouvelles institutions ou de se réorganiser autrement?
Comment?
C'est pas les Chinois qui nous empêchent de
faire réaliser nos commandes. Oh, c'est pas les Chinois qui nous empêchent. Je vous assure qu'ils nous permettront. Et s'ils font des objections, je me parlerai moi-même. Je vais m'occuper des Chinois. Ça.
Demain, on parlera également.
J'avais pendant une certaine période le titre assez exagéré, non même très exagéré, conseiller en chef auprès du commissariat général du plan de la République populaire chinoise pour la réforme macroéconomique. C'est super, non?
Tout ce qui leur arrive, c'est
moi qui l'ai fait, je vous promets. Je
vous ne sortez pas de s'abonner. Alors demain, on va parler également de fiscalité des particuliers et des entreprises. C'est un domaine où la question de changer la norme sociale est déterminante, c'est sûrement là. Personne n'a envie de parler d'augmentation de taxes ou d'impôts. En fait, c'est jamais très populaire comme sujet, sauf quand il s'agit d'augmenter sur les autres. Alors, comment on peut utiliser la fiscalité pour réduire les inégalités? Est-ce que c'est seulement aller chercher plus d'argent dans les poches de tout le monde? Ou l'argent qu'on perçoit déjà, on pourrait mieux l'utiliser en décidant à qui on donne des crédits d'impôt, qu'est-ce qu'on subventionne ou qui?
Ouais, il faut, pour un instant, accepter une idée économique qui ne vient pas très facilement beaucoup de gens. Et cette idée, c'est que l'État, ce n'est pas les ménages. L'État, c'est un peu l'image opposée dans un miroir de la société privée. S'il y a un déficit dans les comptes de l'État, c'est-à-dire qu'il y a un excédent dans les comptes du secteur privé, des entreprises et des ménages personnels. Et s'il y a un excédent dans les comptes de l'État, c'est-à-dire que le secteur privé est en déficit, et la différence c'est que l'État peut soutenir un déficit budgétaire, mais le secteur privé ne peut pas soutenir un déficit budgétaire pendant longtemps. Il peut payer plus d'impôts, autant d'impôts qu'ils reçoivent en dépenses publiques pendant certains moments, en compensant ça par les dettes, par la création de crédits par le système bancaire. Mais pas pour toujours, pas pour toujours. Et si on se fixe sur l'idée que l'État doit être toujours équilibré, alors vous avez accepté la logique de l'austérité. Et c'est une logique qui mène inévitablement à la faillite économique, parce que cette logique enchaîne la diminution de l'économie privée. Et vous voyez très très clairement ça dans le sud de l'Europe. Par exemple, en Grèce, vous avez la poursuite de l'équilibre budgétaire depuis 5 ans, 6 ans, 5 ans, depuis 2009. L'économie privée, et l'économie en totalité, est réduite à 30-40%, beaucoup plus sévère que la Grande Dépression, la grande crise des années 30, dans l'Amérique du Nord, beaucoup plus sévère. Réduction fondamentale et fatale sur l'économie et la société grecque. Et le déficit budgétaire est tout aussi grand que jamais. Ça n'aboutira jamais à la croissance. Ça n'a qu'une seule solution, c'est la banqueroute. Donc, pour les pays qui restent indépendants, tels que le Canada, tels que les États-Unis, qui détiennent toujours le pouvoir de choisir en principe une voie économique, il faut accepter que les déficits budgétaires, c'est normal. C'est normal. Aux États-Unis, on a eu un déficit budgétaire énorme depuis, et ici aussi, ouais, depuis 2009, qui a augmenté à plus de 10% du produit intérieur brut. Et les taux d'intérêt du gouvernement des États-Unis, ça reste toujours à zéro. Donc, l'idée que le marché des crédits, le marché financier, puisse dicter la politique intérieure dans nos pays, c'est une idée fausse. Et ce n'est pas les marchés des crédits qui dictent la politique intérieure à la Grèce, en Italie, en Espagne, au Portugal. C'est Angela Merkel qui dicte ça. C'est le Troïka. C'est la Banque Centrale Européenne qui dit ça, c'est pas le marché des crédits. Et quand M. Draghi voulait stabiliser le marché des crédits, il l'a fait. Il l'a fait par un mandat. Donc il faut voir les choses comme elles sont et accepter que nous avons encore la possibilité de vivre. Je crois que la croissance telle qu'elle était pendant la période après-guerre ne pas être reproduit facilement dans la situation actuelle. Mais ça ne veut pas dire que nous n'avons pas la possibilité de choisir ce qu'il faut faire.
Merci, M. Garbet. Je pense que ce serait le temps de passer des questions de la salle. Je vous demande de vous expliquer le micro. Oui, madame.
Oui,
bonsoir. Je vais parler très fort parce que je suis un peu sourd.
Merci beaucoup. J'ai une question pour vous. Il y a un mouvement de décroissance qui propose la décroissance au lieu de proposer la croissance tout le temps, parce que nous sommes en train de saccager la planète et avec la croissance. Et il y a un mouvement pour la décroissance. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Et aussi la droite qui nous dit tout le temps que la Suède a vu la lumière et ils ont allégé le fardeau fiscal des entreprises privées. Est-ce que c'est vrai ça ou sont en train de nous dire des mensonges?
Ah, deux questions excellentes. Quant à la décroissance, je sais très bien. Et je partage cette inquiétude sur l'avenir de la planète, pour les questions surtout du changement climatique. Je suis franchement assez pessimiste sur notre avenir en long terme. La question, c'est comment peut-on s'adresser à ça? Et à mon avis, il serait très difficile de faire quoi que ce soit sur le plan économique sans un peu de croissance, c'est-à-dire mieux que zéro. Parce que l'économie privée, quand même, est le niveau, et l'économie privée est basée sur la charge au profit. Et si vous avez la décroissance, vous avez une prépondérance de perte. Donc pourquoi est-ce que les entreprises vont marcher dans ce climat-là? Je ne sais pas comment on peut le faire. Je crois qu'on peut s'adapter à un taux de profit moins élevé, avec un système qui vise sur l'emploi des individus et non sur le gaspillage des ressources. Si on fait un effort dédié à cet objectif. Mais je ne vois pas, du point de vue technique, comment faire dans une atmosphère de décroissance. Deuxième question sur la Suède. Il est vrai que la Suède est passée sur un régime conservateur, voire même réactionnaire par rapport aux traditions suédoises. Ils vont payer le prix. Ils vont payer le prix. Je crois que même qu'on peut dire que c'est un peu aussi la situation au Québec. Hein? On peut continuer à dire la vérité, espérant que ça, ça soit, ça redevient populaire. Hein. C'est vraiment difficile d'ailleurs dans, dans le climat politique actuel parce que les gens, il y a beaucoup de gens qui veulent croire les mensonges. Donc, non, je ne dis pas ça pour insulter personne. C'est une situation qui se voit très clairement en Grèce, dans une situation où on est proche au désespoir. Croire au mensonge, c'est une façon de s'adapter. Et il y a des grandes parties des classes politiques qui voient ça très clairement et qui s'en occupent et qui exploitent cette tendance très naturelle.
Merci. À gauche,
s'il
vous plaît.
Bonsoir. Mon nom est Camille, je suis un Québécois de la Gaspésie. Monsieur Gérard, ce soir...
J'ai visité votre coin de Québec et j'ai beaucoup aimé en
1976. En 1976, on a eu à Montréal une expulsion internationale. On nous a parlé à l'époque de l'ère des loisirs. À ce que je sache, on est de plus en plus à l'intérieur de cette ère des loisirs. Où la machine, où l'électronique va remplacer l'humain à faire des choses. Aujourd'hui, l'électronique porte un nom, la Chine, l'Indochine. C'est la moitié de l'humanité qui travaille pour moins cher que la machine. Mais à votre avis, est-ce qu'on ne devra pas un jour trouver une autre façon de prévenir ces inégalités-là quand peut-être 30 ou 40 % de la population aura un emploi, les 60 autres ne sachant trop quoi faire pour développer leur talent. Aujourd'hui, dans la province de Québec, mon gouvernement met beaucoup d'emphase sur les entreprises d'économie sociale. On dit ici qu'ils pourront faire des profits, mais en général, c'est pour répondre aux besoins du milieu. À des taux qui soient peut-être plus justes que ceux qui reçoivent des salaires de 25, 30 ou 40 $. Alors, j'aimerais savoir comment vous prévoyez le développement de cette ère des loisirs au Nord.
L'exposition mondiale de 67. J'y étais, non? J'étais parmi les premiers à se loger à l'habitat. J'avais 15 ans. Parce que c'était mon père qui a été invité à Montréal pour donner un discours à l'ouverture de l'exposition mondiale et je l'ai accompagné. J'ai oublié complètement que cela a inauguré l'image de loisirs. De m'avoir fait rappeler cela. Voilà. Quant à la question, je crois, j'ai un chapitre dans mon nouveau livre qui s'adresse à ça, je crois qu'effectivement la nouvelle technologie a été manipulé pour conserver le travail humain, pour éviter le besoin d'avoir des travailleurs dans beaucoup de situations. La disparition, je ne sais pas si c'est très avancé ici, mais chez nous, certainement, de ceux qui s'occupent à la sortie des grocery stores, des
supermarchés, des
caisses automatiques. Des caisses automatiques. C'est un exemple. Vous avez des tas, et ça c'est beaucoup avancé chez les journalistes, et ça arrive Donc,
c'est vrai, c'est pas de là que ça existe dans les pacifiques.
Parce que, à la suite d'une crise dans une situation de contrat financier, les entreprises, les institutions publiques, les institutions dans le secteur non profit cherchent comment faire pour opérer sans, avec les communes, avec les dépenses réduites. Et c'est naturel, on ne peut pas les reprocher de faire ça. C'est leur façon de survivre dans la concurrence et dans l'austérité qui caractérise leur situation. Et c'est pas les technologies, c'est pas une mauvaise chose. Ça nous permet d'avoir des communications instantanées à très bas prix avec tout le monde. La situation. Quand j'étais jeune, si on voulait téléphoner à l'Europe, c'était, je ne sais pas, 8 dollars par minute. Hein. Maintenant, j'ai trop de communication avec l'Europe, avec l'Asie, avec l'Amérique du Sud, plus que je ne peux, je voudrais. Hein. Mais au moins, ça ne coûte rien. Hein. C'est une situation complètement différente. Donc, comment peut-on profiter des possibilités technologiques nouvelles dans un cadre où les gens peuvent vivre, peuvent travailler pour vivre. Et la solution, c'est facile à dire, il faut avoir des institutions qui donnent le travail, qui ne peuvent pas être remplacées par les petits téléphones. Est-ce que c'est difficile à faire? Pas tellement difficile à faire. Nous avons une population qui a besoin d'être soignée, une grande population. On peut entraîner et payer les gens pour soigner d'autres gens. On ne peut pas faire ça avec le téléphone. On a des possibilités de la vie culturelle, de la vie artistique, de la vie sportive qui n'existait jamais avant. Pourquoi? Est-ce qu'on ne peut pas établir des institutions pour réaliser ces possibilités? C'est même très possible, et c'est dans le cadre, pour répondre un peu à la question précédente, dans le cadre d'une économie qui consomme beaucoup moins de ressources par personne qu'auparavant, hein, dans le cadre d'une économie qui se veut plus soutenable que notre économie à présent. Je ne vois pas l'impossibilité de faire ça. Si c'est suffisant pour s'ajuster, pour arrêter la détérioration climatique du planète, ça je ne suis pas optimiste. Mais laisser les gens gaspiller leur vie dans le chômage, c'est complètement dingue, c'est complètement pas nécessaire.
Monsieur à droite, s'il vous plaît.
Oui, bonjour, M. Gardner. Depuis un plein investissement, on assiste à une croissance des inégalités sur l'immigration en accélérant. Et parallèlement, on a assisté aussi à une désindustrialisation très importante en Occident, notamment aux États-Unis, et dans une moindre mesure aussi au Québec. Mais quand même, depuis quelques temps, on assiste à un mouvement fondamental. Ce qui a contribué fortement à réduire le rapport de force des travailleurs dans la négociation avec les employeurs, notamment dans le secteur manufacturier. Et on a vu aux États-Unis, même des États américains, parce qu'on l'a vécu ici au Québec, avec deux entreprises manufacturières, les États américains, le marché du travail manufacturier est tellement affaibli que ces États-là sont capables de faire des offres à des entreprises qui sont établies ici. Pour les artisans des États-Unis, en leur garantissant des salaires très bas, ils n'auront pas de problème avec les syndicats et qu'il n'y aura pas de fiscalité agressive à la TVA. conséquence de, du déclin là, du secteur manufacturier par les délocalisations, notamment en Chine, l'importance de ce déclin du secteur manufacturier dans l'augmentation des inégalités.
Mon cher ami, je m'excuse, mais j'ai appris cette langue difficile d'outre-mer. Je suis aussi un peu sourd, j'ai compris très mal la question. Alors, je vais demander à notre animatrice de m'aider un peu, excusez-moi.
Oui, oui, mais on parle beaucoup de délocalisation depuis plusieurs années.
Voilà.
Des entreprises qui envoient leurs emplois finalement, qui déménagent à l'étranger où ça coûte moins cher les salaires. Monsieur aimerait savoir ce phénomène-là, dans quelle mesure il a contribué à l'augmentation des inégalités, parce qu'il y a des emplois de qualité qui ont disparu chez nous, chez vous aussi.
Oui, certainement, effectivement, un phénomène très important quand on entre dans la structure de l'économie dans l'ère des inégalités. Je crois qu'il y a la création d'un petit nombre d'emplois extrêmement bien créés, surtout aux États-Unis, sur la côte ouest, dans les industries technologiques et informatiques, vous en avez, vous pouvez les voir à San Francisco, à Seattle, sont là, aussi dans le système financier, bien sûr. Je vous conseille de devenir banquier si vous voulez. Vous avez aussi, en devenant banquier, l'impunité pour commettre des crimes est extraordinaire. Ça serait vraiment la bonne solution. Vous avez absolument raison. Et depuis les années 80, la disparition des emplois dans les industries, disons, moyenne technologie, avec des industries assez lourdes,